IDFM, 98 FM.
Bonjour et bienvenue, je suis Sonia Oulad Ben Saïd sur IDFM Radio et à la technique Francky. Excellente journée sur IDFM Radio, sur le 98 FM, sur idfm98.fr pour le site internet et l'appli IDFM Radio. Vous écoutez l'émission Tous les droits, la première émission de cette saison 2026-2027 sur IDFM Radio. J'ai le plaisir de recevoir Maître Anne-Lise Vistube-Guilbert, bâtonnière de l'Ordre des avocats du Val d'Oise, pour parler de la profession d'avocat et des profondes transformations que connaît actuellement notre système judiciaire. Avocate au barreau du Val d'Oise depuis 2007, elle est aujourd'hui à la tête d'un barreau qui rassemble près de 500 avocats. Elle nous parlera de son parcours, de son cabinet et de ses fonctions de bâtonnière. Que signifie représenter ses confrères? Comment défend-on les intérêts d'un barreau? Comment accompagne-t-on les avocats face aux difficultés économiques, aux évolutions de la justice et aux mutations de leur métier? Et surtout, comment concilier l'exigence d'une justice accessible et humaine avec une profession qui doit elle aussi se réinventer? Nous évoquerons également les grandes réformes qui préoccupent actuellement les avocats et qui a suscité d'importantes interrogations au sein de la profession. Et nous évoquerons ce sujet incontournable, l'intelligence artificielle. Alors, Maître Anne-Lise Vistube-Guilbert, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Et merci à vous de m'avoir invité, bonjour.
Bienvenue à vous dans cette émission Tous les droits sur IDFM Radio 98.fm. Je voudrais qu'on commence cette émission en parlant de l'avocate, parce qu'avant d'être bâtonnière, vous êtes avocate. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez choisi cette profession ?
Voilà, vaste question. Alors, j'ai toujours voulu faire du droit, mais je ne savais pas vers quoi me diriger. Et en fait, c'est au fur et à mesure des années d'études de droit à l'université que je me suis dirigée plutôt vers l'avocature et vers le barreau. Pourquoi ? C'est difficile à dire. Je pense que c'est le fait de choisir la défense de quelqu'un plutôt que d'avoir à trancher et d'être juge. C'est, je pense que la pression est tout aussi importante mais différente, et que le être dans l'empathie et le soutien d'une personne correspondait probablement plus à mon tempérament que le fait de trancher des litiges et d'être décisionnaire sur la vie des gens.
Et donc, vous avez poursuivi une formation à l'université, puis à l'école d'avocat. Est-ce que vous pourrez nous parler de votre parcours universitaire ?
Oui, alors au niveau de la faculté, c'est un bac plus 5. Alors à l'époque, parce que je commence à avoir près de l'âge un petit peu, donc c'était un DESS, donc qui correspond à un master aujourd'hui, que j'avais fait à l'époque en droit de la bioéthique, qui est effectivement une niche, mais enfin qui regroupe notamment pas mal le droit de la santé, tout ce qui est préjudice corporel, et différents grands sujets de société, avec les grands débats qu'il y avait pu avoir sur le sang contaminé, sur enfin, tout ce qui concerne la bioéthique, l'euthanasie, ce genre de sujet. Et donc en parallèle, j'ai préparé donc ce qu'on appelle l'IEJ, l'Institut d'études judiciaires, pour qui permet donc de préparer l'examen d'entrée à l'école d'avocat qu'on appelait à l'époque le CRFPA, qui s'appelle maintenant l'EDAC, qui est à côté de Versailles. Et donc une fois qu'on intègre l'école d'avocat, c'est un an et demi, donc 6 mois de cours et 2 fois 6 mois de stage, et pour avoir après l'examen de sortie. Donc c'est grosso modo un équivalent de bac plus 7.
Bac plus 7, très bien. Et donc vous avez prêté serment en décembre 2007.
Oui.
Et vous étiez alors collaboratrice, c'est ça ?
C'est ça. J'ai commencé, j'ai pas voulu m'installer tout de suite parce que l'école, même si on a des stages, ça reste quand même très théorique, et que c'est une profession qu'on doit nécessairement au moins en partie apprendre sur le terrain. Et autant avant 2007, il y avait ce qu'on appelle un stage obligatoire, c'est-à-dire que pendant 2 ans, on devait forcément travailler auprès d'un avocat. C'est plus le cas aujourd'hui. Et moi, je reste très attachée à ce principe de, et à l'époque, c'était le cas, on était tous dans ce cas-là, de se dire qu'il faut 1 an, 2 ans, 3 ans pour travailler auprès d'un avocat. Moi, en l'occurrence, j'ai fait 2 cabinets différents, 2 fois 1 an et demi. Un cabinet vraiment qui faisait que du droit des étrangers, et un cabinet un peu plus généraliste. pour pouvoir me apprendre concrètement la profession et avoir suffisamment d'armes pour pouvoir m'installer, donc 3 ans après, en 2010.
Oui, parce que vous avez cofondé le cabinet DKW en 2010, donc 3 ans plus tard, c'est pas commun. À l'époque, c'était pas commun, les gens restent en collaboration assez longtemps.
Et ça vient de plus en plus à se raccourcir. Alors là, je me suis pas installée seule, c'était ça aussi qui importait. On était 3 avocates avec 3 formations différentes, 3 matières différentes. On ne pratiquait pas les mêmes matières et des collaborations dans des cabinets différents. Donc le cumul de nos 3 expériences a fait qu'on se sentait prête à monter un cabinet qui a fonctionné, puisque là, ça fait 16 ans et il est toujours là.
Alors, votre cabinet actuellement, donc vous est situé à Aubonne et vous avez un cabinet secondaire à Pontoise, n'est-ce
c'est
pas?
C'est ça.
Vous êtes combien d'associés au sein de ce cabinet aujourd'hui?
2 associés aujourd'hui et une collaboratrice.
Et vous exercez dans quelle matière l'une et l'autre?
Alors, Stéphanie Vautier, donc, qui est mon associée, elle fait tout ce qui est droit de la famille, droit des personnes, droit de la famille. Et moi, j'ai une double casquette, à peu près en 50-50, en droit pénal, aussi bien en défense que victime, avec tout ce qui est réparation du préjudice corporel, et le droit des étrangers.
Alors, ces matières, donc droit des étrangers, droit pénal et droit des victimes, qu'est-ce qui vous a attiré dans ces matières?
Alors, contre toute attente, on m'a toujours dit, et c'est vrai, c'est pas moi qui ai choisi les matières, c'est les matières qui m'ont choisi. C'est-à-dire que concrètement, j'ai fait effectivement ma première collaboration au sein d'un cabinet qui pratiquait à 95% le droit des étrangers. Donc, je me suis vraiment formée dans cette matière et j'ai pu après développer cette clientèle-là à laquelle j'avais pas du tout pensé pendant mes études. Et le droit pénal, c'est pareil. En fait, c'est au fur et à mesure, j'ai eu 1-2 dossiers dont on a un petit peu parlé, qui m'ont permis de développer un petit peu la clientèle. Et après, effectivement, le droit des victimes, c'est la seule chose qui me reste effectivement de mes études et de mon 3e cycle en bioéthique, qui me permet d'avoir ces bagages en réparation du préjudice corporel.
Et à côté donc de ces activités professionnelles d'avocate dans les matières que nous venons de rappeler, vous avez très tôt et très rapidement occupé des fonctions au sein de l'Ordre des avocats du barreau du Val d'Oise.
Alors, rapidement, d'une dizaine d'années.
C'est rapide, moi je trouve.
Au bout d'une dizaine d'années, j'ai effectivement un ami, confrère qui s'appelle Sébastien Reynal, monsieur le bâtonnier Sébastien Reynal, qui était à l'époque membre du Conseil de l'Ordre, il n'était pas encore devenu bâtonnier à ce moment-là, qui avait intégré le Conseil de l'Ordre 3 ans plus tôt et au moment du renouvellement de son mandat, puisque c'est des élections en binôme, il faut un homme, une femme, m'a proposé de monter avec lui pour découvrir un petit peu les fonctions de l'Ordre. Donc c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier en 2017, donc effectivement 10 ans après mon intégration dans le barreau.
Alors, vous avez occupé quel poste au sein de l'Ordre des avocats du barreau du Val d'Oise avant d'être élue bâtonnière?
Alors, j'ai eu 6 ans à l'Ordre des avocats, donc 2 mandats de 3 ans. Le premier mandat, j'ai dirigé exclusivement la commission aide juridictionnelle, donc qui consiste à gérer toutes les difficultés dans le cadre de désignation d'avocats ou de changement d'avocats qui sont désignés au titre de l'aide juridictionnelle, donc quand les justiciables pose une difficulté ou quand au contraire les confrères veulent se décharger d'une mission pour X ou Y raison, ça passait par moi et après l'organisation avec la juridiction pour fluidifier au maximum ces désignations au quotidien. Donc ça a été les 3 premières années de mon mandat et la deuxième partie de mon mandat, j'ai géré la commission pénale. Donc qui est un très gros pan de l'Ordre des avocats puisque c'est la gestion de toutes les permanences au pénal et puis plein de petites choses à côté. On participe par exemple à la commission de désignation des jurys d'assises. Il y a plein de petites choses à côté pour gérer cette commission pénale qui est vraiment très intéressante, mais concrètement très chronophage.
Et donc, alors, vous décidez ensuite de vous lancer dans la campagne pour devenir bâtonnière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passée cette période et quelles ont été vos motivations pour vous présenter à ce poste?
Concrètement, ça faisait donc un peu plus de 15 ans de barreau. J'aime profondément mon métier, mais il y a des moments où on sature un petit peu, où on a besoin d'un petit peu une bouffée d'oxygène, de faire un petit peu autre chose autrement. Et c'est ce que m'avait apporté l'Ordre des avocats. C'est-à-dire que au lieu uniquement de m'occuper de ma clientèle, je me suis occupée aussi des confrères et des difficultés des confrères. Et ça, ça a été une vraie bouffée d'oxygène et ça m'a plu et j'ai eu l'impression de réussir à faire des choses de ce mandat de conseiller de l'ordre. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis dit, bah, la suite logique, c'est de monter et de tenter le bâtonnat. Donc je l'ai tenté une première fois, pour être tout à fait honnête. 2 ans auparavant, où j'étais en candidate face à Monsieur le bâtonnier Stéphane Alémaux, qui a gagné à une vingtaine de voix. Et je suis donc restée conseillère de l'ordre après ces élections. Et en fait, 2 ans après, à la fin du bâtonnat de Stéphane, je me suis dit que j'avais toujours envie d'y aller, donc j'y suis retournée. Et là, contre toute attente, le barreau, il n'y a eu aucune opposition, j'ai eu personne en face de moi en fait. Je crois que l'élection 2 ans auparavant avait été tellement serrée entre lui et moi que tout le monde s'est dit bon bah quelque part c'est mon tour. Et effectivement, donc j'ai pas eu d'adversaire face dans ces secondes élections et donc j'ai été élue et je suis arrivée au bâtonnat pour les années 2025-2026.
Donc vous êtes en fin de bâtonnat, vous terminez votre mission de bâtonnière à la fin de cette année.
Dans 120 jours.
Dans 120 jours, voilà. Donc c'est un décompte extrêmement précis. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous ferez après? Est-ce que vous êtes prête à retourner que dans votre cabinet ou est-ce que vous avez des velléités pour briguer d'autres postes, peut-être à des niveaux supérieurs ou...
L'avenir nous le dira.
Ah, j'adore ce genre de réponse. C'est un excellent teaser. Peut-être que les auditeurs en sauront plus s'ils restent avec nous. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Maître Anise Vistup-Gilberg est au micro de l'émission Tous les droits sur IDFM Radio. Je vous propose de marquer une petite pause musicale. À tout de suite. I'm gonna find them off. A seven-nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I got it coming back my way, I'm gonna serve it to you. Yeah.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Vous écoutez l'émission Tous les droits sur IDFM Radio, sur le 98 FM, sur idfm98.fr pour le site internet et l'appli IDFM Radio. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Maître Anise Vistup-Guilbert, avocate au barreau du Val d'Oise et bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise. Nous avons évoqué son parcours d'avocate avant la première pause musicale et je propose maintenant d'aborder votre mandat de bâtonnière. Alors le rôle du bâtonnier, c'est beaucoup plus large que la représentation symbolique du barreau. Vous intervenez dans les relations avec les pouvoirs publics et les juridictions, la déontologie, les différents entre avocats. Concrètement, Madame la bâtonnière, qu'est-ce que vous faites du matin au soir quand vous êtes bâtonnière?
C'est impossible de résumer en 5 minutes parce que la particularité du bâtonnier, c'est vraiment l'aspect pluricasquette. On a un nombre de casquettes absolument considérable et on gère en fait beaucoup de dossiers et de sujets qui n'ont pas forcément de lien et de rapport les uns avec les autres. Donc c'est ça qui effectivement fait que les journées sont chargées, mais que c'est un mandat absolument passionnant. Donc il y a effectivement plusieurs catégories, on va dire, de missions. La principale et celle que les gens connaissent, c'est que effectivement, je suis, je représente la déontologie. Je suis là pour vérifier que la déontologie des avocats est respectée par les membres de mon barreau. Donc, le barreau des avocats du Val d'Oise, c'est 505 avocats actuellement en exercice. Et quand on compte les avocats honoraires, donc qui gardent le titre mais qui n'exercent plus, on est à peu près 560. Donc, c'est un chiffre relativement important. Pour comparer sur les 163 barreaux de France hors Paris, puisque Paris c'est la moitié des avocats de France, en dehors de ce barreau-là, sur les 163, nous sommes le 20e plus gros barreau. Donc on est quand même un barreau important, avec une juridiction importante, donc énormément de sujets à gérer et énormément de confrères avec qui échanger en cas de difficulté, notamment due à la déontologie. Donc ça c'est la casquette principale, de vérifier que la déontologie est respectée et de poursuivre le cas échéant quand il y a de vraies difficultés et de vrais impacts sur la déontologie et sur le quotidien. La seconde casquette, ça va être le fait d'être à la tête d'un conseil de l'ordre. Donc le conseil de l'ordre, ce sont 18 avocats qui sont donc élus, qui se répartissent les différentes commissions. Donc, par exemple, les deux commissions dont je vous ai parlé tout à l'heure, commission aide juridictionnelle, commission pénale majeure, il y a la commission mineure, la commission famille, la commission prud'homme, etc., etc. Il y a une vingtaine de commissions en tout. Et on se réunit en général environ toutes les 3 semaines. Pour faire un point, un conseil de l'ordre qui finit souvent tard dans la soirée, pour faire des points tant sur la politique interne du barreau pour essayer d'améliorer le quotidien des confrères, pour essayer d'améliorer les permanences, pour améliorer les relations avec les juridictions, que sur le national, c'est-à-dire de discuter sur les réformes en cours qui vont concerner la profession, voter tous ensemble. Donc moi, je n'ai pas de droit de vote, je suis là pour diriger les débats, mais je ne vote pas, ce sont uniquement les conseillers qui votent. Et après, faire remonter au national les différentes positions pour que le national fasse eux-mêmes remonter à la chancellerie nos différentes positions sur les différentes réformes. Donc ça, c'est une deuxième casquette. Et la troisième casquette, effectivement, ça va de pair avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire c'est le national. Donc en dehors du quotidien au sein de notre barreau, on a régulièrement des réunions avec les différents bâtonniers de France. Donc d'une part, les 20 plus gros barreaux qui se réunissent régulièrement, et d'autre part, les 163 barreaux hors Paris, on a moins de réunions avec Paris, qui se réunissent régulièrement pour parler de la profession, pour essayer de discuter les uns et les autres des idées et des avancées que nous avons eues dans nos propres barreaux, pour que chacun inspire les autres dans ses avancées, et pour essayer au maximum d'unifier la profession et de discuter aussi des réformes. Enfin voilà, donc il y a toute cette partie aussi nationale qui prend beaucoup de temps.
Donc vous êtes physiquement beaucoup à la Maison des Avocats qui est à Pontoise, oui, n'est-ce pas? Et cette, on l'appelle la Maison des Avocats, il y a tout un service, il y a plein de gens qui travaillent avec vous au quotidien pour gérer l'ordre.
Alors on a 10 salariés, concrètement c'est 5 salariés pour l'Ordre des Avocats et 5 salariés pour la CARPA. Alors on va essayer d'expliquer en 2 mots ce qu'est la CARPA, c'est la Caisse des Avocats. En fait c'est une caisse par laquelle transite l'ensemble des fonds qui proviennent de décisions de justice et qui permettent en gros, pour faire simple, de financer la profession. Et donc, c'est effectivement beaucoup d'argent de brasser qui ne nous appartient pas et qui nécessite, entre le fait de gérer aussi tout ce qui est aide juridictionnelle, donc on gère toute la partie argent public qui revient aux avocats, et donc ça fait effectivement 5 salariés qui s'occupent exclusivement de cette partie-là.
Et alors, vous nous indiquiez que le barreau du Val d'Oise compte 505 avocats en exercice.
Oui.
Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce barreau ?
Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce barreau ? Beaucoup de choses. Alors déjà, sa taille, effectivement, parce qu'il fait partie des 20 plus gros, c'est une spécificité réelle. L'autre chose qu'on peut mettre en avant, c'est effectivement la particularité d'être en région parisienne, donc dans la grande couronne, et donc d'avoir la difficulté de devoir gérer et de devoir exister en étant proche de Paris. Paris étant un nombre d'avocats absolument inconsidéré, donc un peu moins de la moitié des avocats de France, ils sont 37 000, mais c'est quand même un chiffre assez considérable. Et donc, il faut exister malgré la présence de Paris. Et donc, la meilleure façon de faire dans ce cas-là, c'est d'exister sur le territoire. Donc, d'avoir effectivement, on a par exemple tout un tas de consultations juridiques gratuites dans différentes maisons de justice, dans différentes mairies. On essaye de participer à un maximum d'événements pour pouvoir vraiment se faire sa place et rappeler au quotidien et aux différentes personnes qui habitent sur le Val d'Oise qu'elles n'ont pas besoin d'aller à Paris pour trouver un bon avocat ou un avocat qui est spécifique à sa matière. Donc ça, c'est la deuxième spécificité. Et j'en rajouterai une qui est aussi un peu propre au Val d'Oise, c'est qu'on a une très 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 grande majorité d'avocats qui exercent en individuel. Ce qui effectivement est assez propre au Val d'Oise, c'est-à-dire que sur la plupart des barreaux, on a un grand nombre de cabinets d'avocats de plus ou moins grande taille, et que sur le barreau du Val d'Oise, il y a au final assez peu de cabinets et une grande majorité d'avocats qui exercent seuls. Et donc, c'est important pour la bâtonnière que je suis parce que c'est important de faire en sorte qu'il y ait une vraie communauté des avocats du Val d'Oise et une entraide qui se mette en place. Pour vous donner un exemple très simple, les avocats, une des spécificités, c'est que nous n'avons pas, nous ne gérons pas notre agenda. C'est pas nous qui décidons de notre agenda puisque il y a des audiences qui sont fixées. Et on va être convoqué à une audience. On ne choisit pas la date de l'audience, elle nous est imposée. Et donc, il arrive régulièrement qu'un avocat ait deux convocations devant deux juridictions différentes, dans deux villes différentes, à la même date, à la même heure. Et bien, dans ces cas-là, effectivement, quand on ne travaille pas en cabinet d'avocat et qu'on ne peut donc pas se faire substituer naturellement, il faut bien trouver une solution. Alors, des fois, il n'y aura pas d'autre choix que de faire renvoyer à une autre date, mais ça veut dire que c'est le justiciable qui va perdre du temps parce qu'il a pris un avocat en individuel, mais souvent, on arrive à trouver une solution, soit pour faire retenir un peu plus tard par la juridiction, ou soit d'avoir un confrère sur place qui va pouvoir tenir le dossier qui a été préparé par l'avocat. Et ça, c'est ce que va permettre aussi le bâtonnier de faire en sorte que la communauté fonctionne, qu'il y ait des liens tissés entre les différents avocats pour que l'entraide se fasse très naturellement.
Donc, justement, pour revenir sur la présence des avocats sur le territoire du Val d'Oise et les actions que vous menez, donc peut-être rappeler à nos auditeurs, si on veut avoir accès à un avocat, alors gratuit entre guillemets. Donc, vous avez rappelé qu'il y avait des permanences au sein notamment des mairies, des points d'accès au droit. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler les différents endroits où on peut avoir accès à des consultations, alors gratuites entre guillemets, mais vous allez peut-être nous expliquer comment ça fonctionne d'ailleurs.
Alors, je suis pas sûre de réussir de tête à citer tous les lieux parce qu'il y en a plus d'une dizaine, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous ces lieux et toute la liste des différentes consultations gratuites sont accessibles sur le site des avocats du Val d'Oise. Donc, vous tapez barreau du Val d'Oise, avocat du Val d'Oise, vous avez très vite le site de l'ordre des avocats. Avec un onglet spécifique pour tout ce qui est consultation gratuite. En fait, on a plusieurs types de consultations pour essayer de schématiser un petit peu. On a donc 6 maisons de justice et du droit. Donc il y a Hermont, il y a Sarcelles, il y a Cergy, il y a Persan, et forcément je vais en oublier. Donc c'est je savais qu'il fallait pas que je commence cette liste, c'est pas grave.
Mais ça nous a donné quelques indications.
Voilà. Il y a des premières indications. On a différentes mairies avec qui nous travaillons aussi. On a des points d'accès au droit, donc notamment Magny-en-Vexin de mémoire, et directement au palais de justice aussi le mercredi matin. Donc en fait, il suffit à chaque fois d'aller sur le site de l'ordre. Vous avez les horaires qui sont indiqués et les coordonnées coordonnées de la maison de justice, vous appelez et un rendez-vous vous est donné. Donc c'est un rendez-vous d'aiguillage qui vous permet donc de présenter à l'avocat rapidement la difficulté et l'avocat va vous dire vous avez besoin d'un avocat, vous avez besoin d'une assistante sociale, vous avez besoin et va vous aiguiller et vous expliquer comment procéder et quelles sont les prochaines étapes pour réussir votre dossier, qu'il n'y ait pas de difficulté. Vous donner un petit peu de hauteur face à votre situation, parce que c'est ça le rôle premier de l'avocat. C'est donner de la hauteur à quelqu'un qui est complètement englué dans une difficulté. Et enfin, juste sur les consultations gratuites, on a aussi mis en place la même chose. Donc mon prédécesseur notamment qui les a un petit peu ravivés sous son bâtonnat. Tout ce qui est aussi consultation au niveau des chefs d'entreprise et des entreprises. Donc il y en a 4, pareil, qui ont été mises en place et qui sont régulièrement des consultations sur ces 4 points. Donc pareil, je vous invite à aller sur le site de l'Ordre des avocats pour avoir tous les détails et les coordonnées pour appeler et prendre rendez-vous.
Et sur ce site, on peut aussi retrouver l'annuaire des avocats.
Oui.
En fonction donc de leur activité dominante, de leur spécialité,
ville. Voilà, en fonction de. Après, c'est le choix de soit choisir un avocat le plus proche de chez soi, ou soit de vérifier en fonction des matières dominantes qui sont indiquées. Donc, en fait, vous avez soit les avocats spécialistes, donc qui ont un diplôme spécifique et une reconnaissance spécifique dans une matière et c'est indiqué comme tel sur le site, soit ce qu'on appelle des activités dominantes, c'est-à-dire une matière principale qui est exercé par l'avocat et donc par définition comme ça doit être dominant, un avocat ne peut pas avoir plus de 3 activités dominantes. Et donc ces 3 activités dominantes sont déclarées à l'ordre et donc sont répertoriées sur le site de l'Ordre des avocats, ce qui vous permet de choisir un avocat en fonction des matières qu'il pratique effectivement.
Alors merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est donc ce mandat de bâtonnier et un mandat dense. Vous avez rappelé toutes les casquettes du bâtonnier. Je vous propose de marquer une nouvelle pause musicale avant de nous retrouver avec Maître Anice Vistube-Guilbert, avocate au barreau du Val d'Oise et bâtonnière de l'ordre du Val d'Oise. Restez avec nous.
C'était le début des années 20, le début de la fin sûrement. Toi tu courais toujours en vain. Ouais, tu aimais gagner ton temps. Dans les trop tard de tes 30 ans. Ouais, tu étais déjà sous l'eau. Et tout l'apnée de ton dedans semblait te lancer des signaux. Tu changeais d'appartement pour une 10e fois peut-être. Tu te lavais dans les fêtes entre bureau et tristesse. C'était peut-être ça la vie. T'en étais persuadé aussi. Jusqu'à ce qu'enfin tu découvres qu'il existait l'amour. Un peu de love et de tendresse. Finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes. Pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse. Finalement c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes. Pour rattraper le temps qui presse. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love. Un peu de love. Un peu de love et de tendresse. Fermé sans sentiment. Tu as tenu longtemps comme ça. À faire des petits bâtons de sang sur les murs de ton célibat. Puis si tu vois ce que tu rates, tu n'auras pas mon amour 1000 fois. Alors que le taf s'en relâche, tu pourras y revenir sans moi. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes, pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes, pour attraper le temps qui presse.
Un peu de love et de tendresse. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love. Un peu de love. un peu de love et de tendresse.
IDFM, 98FM.
Vous écoutez l'émission Tous les droits sur IDFM Radio. Nous poursuivons cette émission avec Madame la bâtonnière du barreau du Val d'Oise, Maître Anice Vistube-Guilbert, qui nous parlait de son mandat, de ses fonctions et de son quotidien en tant que bâtonnière. Madame la bâtonnière, j'ai encore quelques questions concernant les activités du barreau du Val d'Oise et les partenariats que vous avez mis en place pour associer le barreau du Val d'Oise et les avocats du barreau du Val d'Oise à la vie locale et permettre un accès à la justice et d'ouvrir le débat sur la justice d'aujourd'hui et de demain. Vous intervenez notamment alors dans les établissements scolaires ?
Oui, alors il y a deux façons différentes d'intervenir dans les établissements scolaires. Alors on a une structure nationale qui s'appelle Initia Droit et on a une antenne sur le Val d'Oise qui permet d'intervenir régulièrement dans les collèges pour répondre aux questions, en fait, tout simplement, des collégiens sur ce qu'est la justice, ce qu'est le rôle de l'avocat, et casser un petit peu les idées reçues qu'il peut y avoir et l'aspect négatif qui est souvent porté par les médias sur les avocats, et de rappeler l'intérêt de notre profession et répondre très simplement aux questions. Et par thème, à chaque fois, c'est un thème qui est décidé et des avocats donc qui se déplacent dans les collèges. Et puis tous les ans, on a une journée des collèges, du droit dans les collèges, où pareil, les avocats interviennent. Et ça, c'est au niveau national, donc c'est plus l'association Initia Droit, c'est vraiment toute la profession qui, un jour dans l'année, donc là cette année c'est le 20 novembre, se déplace dans les différents collèges pour pouvoir répondre aux questions, ou toujours sur un thème. Donc là cette année, le thème c'est le droit international des enfants, qui est un thème effectivement qui colle parfaitement à l'actualité, le droit des enfants à l'international, et donc qui permet de répondre aux questions et de rappeler que l'avocat, c'est pas ce métier, enfin c'est cette personne complètement inaccessible ou beaucoup trop chère qui non, c'est quelqu'un de votre quotidien auquel il faut pouvoir faire appel et qui va vous apporter vraiment une solution et vous aider dans votre quotidien.
Et les avocats aussi sont présents dans le cadre, organisent ou sont présents dans le cadre de colloques, par exemple avec l'université. Je pense aussi à la Nuit du Droit. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces événements ?
Alors, on essaye de mettre en place régulièrement des événements pour, tant pour le public, pour le local et ce que je disais, le territoire, comme je disais tout à l'heure, qu'aussi pour les étudiants, parce que pour la même raison que le barreau du Val d'Oise a parfois du mal à se faire sa place en étant à proximité directe de Paris, et ben pour les étudiants c'est pareil, c'est-à-dire que les étudiants en droit, donc on a une grosse fac de droit à Cergy, on va avoir tendance à vouloir aller à Paris, en se disant que voilà, Paris, il y a l'image de Paris, il y a la rétrocession, donc les montants de qui ne sont pas les mêmes quand on commence la profession, ce genre de choses. Et nous, justement, au contraire, on est là dès la faculté, pour leur dire non, en fait, venez sur le barreau du Val d'Oise, il y a une véritable richesse de la profession sur le barreau du Val d'Oise. Vous pouvez justement trouver, que ce soit une association et créer un cabinet, ou vous faire votre place, parce qu'on est justement beaucoup moins nombreux qu'à Paris. Et donc, pour pouvoir avoir cette communication-là, il faut forcément qu'on ait des liens très ténus avec la faculté. Et donc, on organise régulièrement des événements avec eux et avec la doyenne, Madame Nelly Ferreira, que je salue si elle nous écoute. Et avec elle, on organise aussi également, et avec les juridictions, la Nuit du Droit tous les ans, donc cette année le 5 octobre. Cette année, on l'organise, donc on tourne d'un endroit à l'autre, puisqu'on est plusieurs organisateurs. Cette année, elle sera organisée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Et le but, ça va être de créer une audience fictive de deux affaires différentes, donc une affaire en judiciaire, donc comme si on était devant le tribunal judiciaire, et une affaire en droit public, donc devant le tribunal administratif, pour permettre de montrer justement la différence entre ces deux juridictions qui n'ont pas grand-chose à voir au final dans leur fonctionnement et dans leur procédure. Et donc cette Nuit du Droit, elle est ouverte avant tout aux lycéens et aux étudiants de première année de droit sur inscription. Donc le public concerné va recevoir un lien pour pouvoir s'inscrire, puisque c'est dans un tribunal, donc le nombre de places par définition est limité.
Et vous avez également un partenariat, je crois, avec le cinéma Utopia.
Oui.
Où il y a des projections. Expliquez-nous ce fonctionnement. je ne trouve plus mes mots là tout de suite.
On a effectivement un partenariat avec Utopia, donc Saint-Ouen-l'Aumône-Pontoise, puisque les deux salles sont liées, et on essaye régulièrement, plusieurs fois par an en tout cas, de faire ce qu'on appelle un peu des ciné-débats, c'est-à-dire qu'on prend un film généralement dans l'actualité, donc on est en lien en constant avec eux, et à chaque fois qu'il y a un lien direct avec le côté judiciaire ou l'aspect justice, on crée un ciné-débat, donc il y a une séance spécifique, et on essaye d'avoir 2-3 invités, donc en général au moins un magistrat, un avocat, une personne, alors ça peut être quand on a fait le droit des enfants, on avait quelqu'un de la Sauvegarde 95, qui est l'association en charge des enfants, du suivi des enfants, des mineurs. Et donc après la séance cinéma à proprement parler, on reste tous dans la salle et on débat. Et ça permet au public de nous poser des questions concrètement sur ce qu'ils ont vu, ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont vu. Et c'est leur idée, une fois de plus, combattre les idées reçues et pouvoir leur répondre concrètement en étant agent de terrain et en étant présent sur place. Et en général, ça marche très très bien.
Et je voulais également parler de ce partenariat avec IDFM Radio, parce que vous avez signé sous votre mandat un partenariat avec la radio sur laquelle nous avons le plaisir d'être diffusés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre motivation pour signer ce partenariat, par exemple ?
Là, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que concrètement, c'est la communication et le fait de faire connaître les avocats concrètement. Et donc, votre émission, et je vous en remercie, nous permet d'avoir une véritable fenêtre, puisque régulièrement, vous avez donc 2-3 avocats chaque mois différents, qui sont pas les mêmes avocats, qui viennent en fonction des matières pratiquées, pour pouvoir parler de leur matière concrètement et pour pouvoir mettre en avant que, oui, le barreau du Val-d'Oise, comme on est plus de 500 aujourd'hui, on peut répondre à l'ensemble des problématiques et à l'ensemble des contentieux. Et c'est ça qui est important, c'est de rappeler aux gens que l'avocat, concrètement, contrairement à ce qu'on peut imaginer, est parfaitement accessible.
Alors, c'est effectivement le but de cette émission, mais je vois aussi, et vous le constatez, hein, que nos confrères, notamment plus jeunes, communiquent, eux, beaucoup et très différemment de nous. Je pense notamment aux communications sur les réseaux sociaux. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que déjà les avocats ont le droit de communiquer sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'ils ont le droit de faire de la publicité ? À quelles règles ils sont soumis quand ils le font ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus ?
Alors, c'est un sujet complexe, parce qu'effectivement, pendant très très longtemps, les avocats n'avaient pas le droit de faire de publicité du tout, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc oui, les avocats peuvent communiquer sur les réseaux sociaux, c'est légal. Ils peuvent faire leur publicité, c'est légal. Mais ils doivent respecter nos règles déontologiques. Alors, je vais pas vous faire la liste des règles déontologiques ici maintenant, mais en revanche, inviter nos justiciables quand ils voient, et ça m'arrive régulièrement, puisque c'est donc je réceptionne l'ensemble des plaintes déontologiques du barreau du Val-d'Oise, quand il y a une communication qui vraiment semble poser difficulté, soit parce que il y a potentiellement une violation du secret professionnel, soit parce que il y a un comportement qui n'est pas adapté, qui n'est pas moral, qui n'est pas, il faut pas hésiter à écrire au bâtonnier en donnant le lien du réel ou de la communication en question, pour que l'avocat puisse expliquer devant le bâtonnier, le cas échéant, s'il y a effectivement une difficulté, pour pouvoir faire retirer la publication, le cas échéant, et pour pouvoir envisager des poursuites, tout ça. Enfin voilà, c'est les différentes possibilités en fonction de la gravité et du problème que pose la communication, effectivement. Donc oui, en tout cas, on peut communiquer, et c'est pour ça qu'il y a effectivement, notamment sur TikTok, plein d'avocats qui font des communications. Il y a de tout, il y a de très bonnes communications, il y a des communications qui sont effectivement un peu plus légères ou un peu plus déplacées, mais moi, vous imaginez bien que je peux pas avoir les yeux partout, tout le temps, donc j'ai effectivement besoin aussi que quand quelqu'un voit une communication qui pose difficulté, eh ben m'en alerter pour que je puisse faire le nécessaire, parce que je ne peux pas avoir les yeux partout, donc c'est parce qu'on me saisit que je peux après agir et faire en sorte que la communication disparaisse.
Parce que vous avez un pouvoir disciplinaire, c'est important de le rappeler, un pouvoir de poursuite, de sanction avec différents degrés, mais donc, pour rassurer les auditeurs, parce que souvent on entend c'est de l'entre-soi, les avocats se protègent les uns les autres, on peut l'entendre dans plein d'autres professions, mais qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ces auditeurs pour les rassurer sur le fait que les plaintes sont instruites et donne lieu ou pas à sanction, mais les rassurer sur le fait que quand on dépose plainte ou qu'on se fait un signalement, il y a toute une chaîne qui se met en place derrière.
Il y a toute une chaîne et effectivement une graduation dans les sanctions possibles qui peuvent aller du simple rappel à l'ordre. Alors des fois, on est juste saisi parce que on n'arrive plus à contacter l'avocat, il y a eu un déménagement, il y a eu un loupé, quelque chose, et donc dans ces cas-là, ça se résout. Effectivement, il n'y a pas forcément, c'est pas parce qu'on est saisi qu'on va forcément aller au disciplinaire. Ça, effectivement, il ne faut pas prendre ça comme de l'entre-soi ou quoi, c'est au contraire, nous on a tout intérêt à être réactif et à faire le ménage quand il y a des confrères qui posent difficultés et qui ne respectent pas les règles, parce que c'est justement notre image qui est mise en jeu. Donc bien entendu que on est très attentif aux différentes plaintes qu'on peut recevoir pour faire en sorte que l'image des avocats soit la meilleure possible, l'image du barreau soit la meilleure possible, et que les confrères qui ne respectent pas les règles soient sanctionnés. Mais pour ça, effectivement, il faut bien que je sois saisie. Je peux pas avoir les yeux partout.
Merci pour ces précisions, pour votre vigilance et pour toutes ces fonctions de bâtonnière, ce mandat de bâtonnier dont vous nous avez rappelé la teneur, les enjeux et les perspectives. Alors, je voudrais qu'on parle désormais de la justice aujourd'hui, des réformes et des inquiétudes. Régulièrement, l'actualité se saisit des projets de réforme et puis des réactions suscitées par les professionnels, magistrats ou avocats. Je voudrais vous poser cette question-là. On entend souvent de la part des justiciables que la justice, elle est trop lente, elle est trop complexe et elle est beaucoup trop chère. Qu'est-ce que vous pourriez leur répondre ?
Je suis en grande partie d'accord avec eux, mais pas que. Alors, la justice est trop lente, incontestablement. La justice manque de moyens, incontestablement. La justice est trop chère, là, effectivement, je suis un peu moins d'accord, parce que un avocat, ça coûte cher. Là, je vais pas dire le contraire, ça a un coût. Mais il y a un ensemble de choses qui sont mises en place pour minimiser le coût, ou en tout cas adapter le coût à la situation financière du justiciable. On a l'aide juridictionnelle qui est mise en place, vous permet, grosso modo, je crois que c'est à 1550 actuellement, donc si vous touchez 1550 € par mois, grosso modo, et je parle de tête, donc c'est pas le chiffre précis, mais vous avez le droit du coup à un avocat qui est payé par l'État. Vous avez les protections juridiques, des assurances qui permettent de payer une partie des honoraires, et donc vous avez un reste à charge qui est par définition beaucoup moins important. Vous avez éventuellement l'honoraire de résultat qui peut être mis en place dans certaines matières, alors qu'il ne peut pas constituer le seul honoraire. L'avocat n'a pas le droit d'être payé uniquement au résultat, puisqu'on a une obligation de moyens uniquement, mais il peut y avoir donc un honoraire principal, forfaitaire par exemple, et un honoraire de résultat. Donc, et on discute de l'honoraire avec l'avocat, puisque l'honoraire est libre et qu'il y a une convention d'honoraire qui est signée, et qui permet, la convention d'honoraire, le cas échéant, de prévoir un échelonnement dans le paiement. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble de choses qui permet de diminuer le coût ou d'adapter le coût à la situation. Donc il faut surtout pas partir du principe que c'est inaccessible et que l'avocat, c'est pour les autres. Alors déjà, il y a des matières où l'avocat est obligatoire, ça résout déjà un peu le problème. En matière de divorce, l'avocat est obligatoire. En matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ce qu'on appelle vulgairement le plaidé coupable, l'avocat est obligatoire. Donc, dans ces moments-là, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Mais il n'empêche que les honoraires, ça se discute. Donc, il ne faut pas partir du principe que la justice est trop chère. Ça, je suis pas d'accord avec cette affirmation-là. En revanche, que la justice ait des difficultés, là, oui. Là, je suis tout à fait d'accord. On a des vrais problèmes de lenteur. On a un vrai problème de budget de la justice. Et la justice est en souffrance. C'est-à-dire que moi, je suis habituée au quotidien à parler de la souffrance et des difficultés rencontrées par les avocats. Mais ça ne veut pas dire que je ne vois pas les difficultés, la souffrance que rencontrent les magistrats, les services de greffe, l'ensemble de la justice, la police aussi, qui fait partie du système judiciaire au sens large. Tous ces pans et toutes ces différentes catégories professionnelles souffrent énormément d'un manque de moyens, et ne tient que parce que ce sont des gens qui ont une vocation et qui veulent faire tenir le système. Mais s'il n'y avait pas la volonté de chacun de faire tenir envers et contre tout, tout s'écroulerait. Et je pense que ce discours-là est à peu près le même, si on peut faire le parallèle avec le système hospitalier, par exemple. Je pense qu'on est exactement dans le même cas de figure.
Oui, certains diront que ce n'est pas un problème de moyens, mais un problème d'organisation. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des problèmes d'organisation ? Est-ce que vous êtes souvent en relation avec les juridictions, avec les administrations ? Est-ce que vous pouvez l'entendre, ça aussi, qu'à côté des problèmes de moyens, il y a aussi des problèmes d'organisation ?
Alors, on peut toujours partir du principe qu'il y a des organisations qui seraient à parfaire. Bien sûr, on va pas dire le contraire. En revanche, la grosse difficulté, c'est que depuis maintenant, alors moi je suis avocate depuis 19 ans et je crois que ça fait 19 ans que je vois ça, de plutôt que d'avoir une réforme en profondeur en pensant la justice, c'est-à-dire en arrivant à se dire voilà, la justice on veut que ça donne ça, donc on va faire ça et réfléchir en profondeur une réforme. Ça fait 20 ans qu'on met des pansements sur la justice en se disant ah bah ça marche pas, donc on va mettre le pansement là pour que ça marche mieux, donc le pansement permet que ça marche mieux, mais en fait là on a 20 ans de pansement et peut-être même un peu plus, j'ai pas du coup le passif plus que ça, mais et donc forcément ça ne marche plus parce que les pansements bah déjà finissent par fuir de part et d'autre, ça ne fonctionne plus, et en fait ce qu'il faut c'est penser complètement, repenser la justice et repenser la justice en profondeur, modifier vraiment certaines organisations, certaines procédures, et ben ça a un coût, et ça a un coût que la justice ne peut pas mettre actuellement avec les financements et le budget de la justice.
Merci pour ces précisions, et heureusement vous l'avez rappelé qu'il y a des professionnels qui ont envie que ça fonctionne et qui donnent du sens à ce qu'ils font en s'investissant. Merci de le rappeler. Nous marquons une nouvelle pause musicale avant de retrouver Maître Annelise Vistup-Gilbert, avocat au barreau du Val d'Oise et bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise. Restez avec nous.
Everybody's a yeah, 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 yeah. New York, concrete Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
Merci d'être resté avec nous. Merci de nous rejoindre sur IDFM Radio. Vous écoutez l'émission Tous les droits. J'ai le plaisir ce matin de recevoir Maître Anis Wistup-Gilberg, avocate au barreau du Val d'Oise et bâtonnière de l'ordre. Nous poursuivons cette émission en parlant des réformes qui ont agité la profession ces derniers mois et notamment cette réforme du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes. Maître Anis Wistup-Gilberg. Donc cette réforme, elle a suscité une réaction significative de la profession et notamment au sein du barreau. Nous avons été en grève générale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé et vos actions pour marquer votre opposition à certaines dispositions de cette réforme ?
Oui, on peut même dire, je crois, à toutes les dispositions
voilà,
de la réforme.
J'essaie d'être diplomate.
Soyons honnêtes, il n'y a pas grand-chose qu'on a soutenu dans cette réforme qui est, à mon sens, catastrophique. Bon, elle est passée. Pas en intégralité, et c'est une bonne chose. Cette réforme, en fait, on s'est battu. L'article 1, qui a été le plus médiatisé, concernait un plaidé coupable criminel qui permettait donc en cas de reconnaissance des faits de ne plus passer par un procès d'assises, donc avec les jurés d'assises et avec le peuple qui rend la justice sur les faits les plus graves. Et ça posait énormément de difficultés à la profession, mais pas à la profession dans son exercice professionnel, et c'est là toute la nuance, et c'est important de le rappeler, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas battu pour notre précaré, puisque, et je le disais tout à l'heure sans savoir que vous alliez me poser cette question-là maintenant, en matière de plaidé coupable, l'avocat est obligatoire. Donc on ne perdait aucune affaire, la question ne se posait pas là. C'était vraiment, on s'est battu, et c'est pas uniquement le barreau du Val d'Oise, hein, c'est quasiment l'intégralité des barreaux de France qui ont été en grève contre cette réforme. On se battait pour le principe de la justice, c'est ce qu'on entend par justice, et on se battait aussi énormément pour la victime, puisque cette loi qui s'appelait donc justice criminelle et respect des victimes, et ben au final ne faisait plus du tout la place à la victime sur le procès criminel, parce que un procès d'assises où la victime est présente, alors c'est pas toujours simple pour elle à vivre, etc., mais elle est présente, elle a la parole, elle entend la parole, elle entend la reconnaissance, puisque là on est en train de parler de faits qui sont reconnus, puisqu'un plaidé coupable, on plaide coupable, on reconnaît les faits. Donc c'est forcément, ce ne sont pas ceux-là les procès qui sont douloureux pour la victime. Alors, je dis pas que c'est facile. Et ce que je veux dire, c'est que les procès les plus traumatisants, c'est quand la victime est face à quelqu'un qui continue à nier les faits. Là, c'est pas le cas. Et non seulement, du coup, elle n'a plus cette fenêtre-là d'apaisement potentiel et d'entendre la personne qui reconnaît les faits. Et en plus, on ne lui laissait plus la place sur le plaidé coupable. On lui laissait une place extrêmement restreinte, qui ne correspondait pas à l'image qu'on veut donner à la victime en France. Et donc c'est pour ça qu'on s'est battu. C'est pas du tout pour un précaré de la profession, puisque une fois de plus, on ne perdait rien avec cette réforme. Et après, ça c'est le haut de l'iceberg. C'est celui que tout le monde a vu, que vous avez probablement vu les uns et les autres sur différents articles de presse ou à la télévision. Mais il y a tout un tas d'autres choses qui se sont joués sur cette réforme et qui sont tout aussi problématiques. Alors je peux pas prendre les textes, les articles un par un, parce que ça serait beaucoup trop long à expliquer, mais on a par exemple le but, là, vous voyez, on parlait de pansement tout à l'heure. Le but, c'est de dire officiellement la justice criminelle est trop lente, la justice criminelle est en train de craquer parce qu'il y a trop de dossiers, on n'arrive pas à tous les traiter. C'est une réalité, je suis d'accord avec cette réalité, c'est vrai. Et donc, on va mettre un pansement. Et c'est là où là, on n'est plus d'accord pour dire, eh ben, donc, on va essayer, le but, et ce que vous avez entendu, notre garde des Sceaux a dit par Mons et par Vaux, le but est de réduire les délais de la justice criminelle, puisque un viol est en général jugé dans un délai de 6 à 8 ans en France, donc il faut réduire les délais. Ça a été le discours officiel qu'on a entendu. Et ben concrètement, quand on regarde le texte et ce qui a été voté, en matière de viol, la plupart des dossiers de viol passent devant ce qu'on appelle une cour criminelle départementale. La cour criminelle départementale, elle intervient après qu'un juge d'instruction ait enquêté. Quand le juge d'instruction rend sa décision pour saisir la cour, à partir de là, quand la personne est en détention, il y a un délai pour qu'il puisse être jugé. Donc, le but de notre garde des Sceaux était de réduire les délais de la justice. Et ben, pour ce faire, il a donc augmenté ce délai. Et c'est là où on dit qu'il y a une véritable hypocrisie dans ce qui a été fait. Alors, il a doublé ce délai. qui était de 6 mois, qui est à 1 an, enfin à 18 mois maintenant, puisqu'il est de 1 an renouvelable une fois 6 mois, alors qu'il était de 6 mois renouvelable une fois 6 mois avant. Donc on a 6 mois de plus qui se sont ajoutés. Et je comprends pourquoi ça a été ajouté, parce qu'effectivement, on n'arrivait plus à audiencer dans les délais. Donc je ne suis pas en train de dire que la justice n'est pas en souffrance. Oui, il y avait une difficulté. Mais on ne peut pas dire que le but de la réforme, c'est de raccourcir les délais, si concrètement on les rallonge. Il y a une véritable hypocrisie, et là, c'est exactement ce que je disais, on met un pansement pour dire, bon bah ça tient plus, donc on offre une soupape de 6 mois supplémentaires pour que ça puisse tenir encore un peu, plutôt que de réfléchir concrètement l'organisation et de changer la façon de faire. Moi, je suis convaincue que ces cours criminelles départementales qui avaient été mises en place sous, pourtant, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux à l'époque, qui était un ancien confrère et un ancien confrère qui pratiquait le criminel. Donc, c'est vrai que ça a été une réforme très incomprise par la profession, et je pense que ces cours criminels départementales ont été une erreur, et que ce sont les cours criminels départementales qui ont envoyé complètement la justice criminelle dans le mur, puisque là, vraiment, il faut sortir de cette situation. Il nous fallait une réforme. Les avocats n'étaient pas opposés au principe de la réforme, les avocats étaient opposés au principe du pansement encore et toujours, plutôt que de penser sur le long cours et de penser vraiment notre justice.
Alors, comment la profession, et notamment le barreau du Val-d'Oise, a à l'époque marqué son opposition à ce projet de réforme? Il y a eu une grève générale, on avait fait circuler sur IDFM Radio une annonce pour indiquer à l'ensemble des justiciables que le barreau du Val-d'Oise s'opposait à cette réforme, était en grève. Vous, personnellement, en tant que bâtonnière, qu'est-ce que vous avez pu entreprendre comme action pour faire entendre la voix de la profession et peut-être particulièrement du barreau du Val-d'Oise au sein des instances nationales?
Non, mais en local, on a communiqué effectivement sur différentes radios, sur différents services de presse. Je suis en train de réfléchir, mais non, je crois que j'ai pas eu de télé cette fois-ci, mais je sais qu'il y a plusieurs autres bâtonniers qui ont pu aussi communiquer à la télévision, et puis surtout nos instances nationales. Et il y a eu régulièrement des réunions justement de l'ensemble des bâtonniers pour qu'il y ait une cohésion du mouvement, qu'on se mette d'accord sur ce sur quoi nous luttions, contre quoi nous luttions, les éléments sur lesquels il n'était pas question de négocier et les éléments sur lesquels on pouvait le cas échéant négocier en fonction. Et donc ça, c'est beaucoup de discussions, parce que mine de rien, 164 barreaux avec des bâtonniers et une partie bâtonnier et vice-bâtonnier, donc ça fait plus de 200 personnes. Les instances nationales, on en a 2 plus Paris, donc c'est pareil, ça fait encore plus d'une cinquantaine de personnes, voire plus, 80, 150, oui, même 150. Et donc tout ça, c'est une énorme machine, et quand on a une grève comme ça générale, c'est énormément de réunions, donc heureusement en visio, parce que sinon on s'en sort pas, pour se mettre d'accord, pour voter la suite des événements, et c'est régulièrement rassembler le barreau du Val-d'Oise pour que le barreau du Val-d'Oise puisse aussi être en cohésion et voter la continuation de la grève, voir si tout le monde est d'accord, resserrer les rangs, discuter, communiquer beaucoup. Et donc là, c'est là où, une fois de plus, vous voyez la double casquette du bâtonnier, qui doit à la fois communiquer à l'extérieur, vers les justiciables, vers les médias, pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un mouvement de grève et pourquoi le mouvement de grève, même si là tout de suite il impacte le justiciable, mais c'est dans son intérêt au final, c'est pas contre lui, c'est pour lui et c'est pour le protéger qu'on met un petit caillou dans le fonctionnement de la justice. Et en parallèle de ça, toute la communication en interne, que ce soit au national pour avoir une cohésion, et à l'intérieur du barreau, pour que les confrères comprennent la grève, soient en grève, qu'il y ait des explications, qu'on explique au fur et à mesure qu'on redescende les informations, qu'on les rebascule de l'autre côté. Et donc, c'est énormément de travail.
Et donc, il y a cette réforme dont vous avez parlé sur la justice criminelle et le respect des victimes. D'autres projets de réforme sont en cours d'examen, qui vont aussi encore bouleverser la procédure pénale, avoir des impacts sur les justiciables. En fait, les avocats sont quand même souvent confrontés à des réformes. Comment vous, au sein de votre ordre, vous organisez ces mises à jour pour les avocats? Est-ce que vous faites des formations? Est-ce que vous les associez aux discussions? Comment ça se passe concrètement?
Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a effectivement, quand on en est au stade de la discussion sur le projet de loi ou le projet de réforme de façon plus large, dans ces cas-là, généralement, nos instances nationales nous saisissent, Conseil de l'Ordre, pour que les 18 membres élus du Conseil de l'Ordre du barreau du Val-d'Oise, donc le nombre de membres dépend de la taille du barreau, nous on en a 18, puissent discuter sur la réforme et donner une position qui sera la position du barreau sur une réforme et éventuellement des pistes en disant voilà, ce point-là, il est refusé pour telle raison et donc pouvoir alimenter un petit peu la discussion et alimenter avec les différents arguments qu'on remonte sur nos instances nationales. Et en parallèle de ça, une fois que les réformes sont effectivement passées, oui, bien entendu, on forme les confrères, alors à différents niveaux. Moi, j'ai énormément réformé la communication sur le barreau du Val-d'Oise, donc on a une lettre du barreau toutes les semaines qui rassemble l'ensemble des informations qui sont utiles aux confrères, puisqu'auparavant, comme un peu partout, hein, on avait commencé à passer par le mail, enfin, depuis déjà un certain nombre d'années, mais plus ça va, plus on a des informations à communiquer, plus le nombre de mails est grand, et quand on en arrive à une dizaine de mails par jour, c'est plus possible, les confrères ne lisent plus tous les mails, ce qui est parfaitement logique, et donc là, on a rassemblé, donc une fois par semaine, sur une lettre du barreau avec les différents thèmes, pour que les confrères aillent piocher uniquement les informations qui les intéressent, et passer les informations qui ne les intéressent pas, et sur cette lettre, donc on a les grandes réformes avec les liens vers les textes de loi, pour que les confrères puissent être à jour, et on a effectivement aussi toute la liste des formations qui se déroulent soit en distanciel où ils peuvent s'inscrire, soit sur la région Île-de-France pour qu'ils puissent se déplacer et aller en formation. Et à côté de ça, bien sûr, nous-mêmes, Barreau du Val-d'Oise, on organise régulièrement des formations à la Maison de l'Avocat pour nos confrères, sur soit les différentes réformes ou soit les mises à jour par rapport aux confrères qui sont commis d'office dans le cadre de permanence.
Oui, parce que je le rappelle régulièrement à ce micro, mais les confrères, les avocats ont une obligation de formation chaque année. Ils doivent accomplir, rappelez-nous, le nombre d'heures de formation.
20 heures par an minimum chaque année, donc 40 heures en réalité sur 2 ans, avec des spécificités selon les matières. C'est-à-dire que le barreau du Val-d'Oise, on a 7 contrats différents par matière. Pour les avocats qui veulent intervenir dans le cadre de permanence, ils ont une obligation de formation supplémentaire. C'est-à-dire qu'on a les 20 heures qui sont générales et nous, on rajoute, on intègre en tout cas sur ces 20 heures, il faut au moins par exemple 6 heures de pénal quand on fait partie du groupe pénal, 6 heures de, enfin, et ça c'est la même chose sur tous les différents groupes, ça en hospitalisation d'office. À chaque fois, il faut en victime, il faut justifier d'heures de formation et de mise à jour spécifiques dans la matière dans laquelle on exerce pour que votre bâtonnier puisse vous commettre d'office sur ces permanences-là. Donc un avocat commis d'office, ça va pas être un avocat qui n'a pas de dossier et qui du coup pioche. Non, pas du tout. C'est un groupe spécifique d'avocats qui est formé avec un bâtonnier qui va vérifier que la formation est assidue, est annuelle et qui sort les avocats de ces groupes quand les formations ne sont pas respectées pour qu'il y ait une justice de qualité même en cas de commission d'office et d'aide juridictionnelle. Et ça, c'est important de le rappeler.
C'est important de le rappeler. Je vous remercie parce que souvent les clients disent oh, c'est l'avocat commis d'office, ça doit être un mauvais ou un jeune qui débute. Donc là, vous êtes en train de dire que contrairement à ce qu'ils pensent, l'avocat commis d'office sur le barreau du Val-d'Oise, en tout cas, c'est un avocat qui a été formé. Oui. On vérifie qu'il est formé, donc qu'il est à jour des réformes, qu'il maîtrise la matière avant de le désigner dans les dossiers.
C'est ça. Et donc concrètement, c'est le bâtonnier qui va gérer chacun des groupes de formation pour vérifier que les règles sont respectées, que les formations sont respectées. Donc un avocat commis d'office, c'est un avocat comme les autres, mais qui a en plus des obligations professionnelles supplémentaires qui font que vous avez une justice de qualité avec les avocats commis d'office sur le Val-d'Oise.
Merci de contribuer à ce que les avocats, notamment du barreau du Val-d'Oise, soient formés et offrent aux justiciables une justice de grande qualité. Nous marquons une nouvelle pause musicale avant d'aborder le grand sujet du moment, peut-être même du siècle, l'intelligence artificielle. Nous échangeons ce matin avec Maître Annelise Vistube-Gilbert, avocat au barreau du Val-d'Oise et bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise. À tout de suite.
Me ven entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda, quizá eres mi próximo error. Estoy con mis amigas de reojo mirándote. Queda tan bien esa camisa de Versace. Hoy vas a ser mi próximo error. Y no
mentiras, tatuarme tu apellido, querernos para toda la vida. Y no sé qué diablos estamos haciendo. No te conozco, pero me estoy muriendo. Fuck, vámonos ya de aquí, hoy soy toda para ti. Él me dice que
en Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Vous écoutez l'émission Tous les droits sur IDFM Radio. Ce matin, j'ai le plaisir, l'honneur, le bonheur de recevoir Maître Vistube Guilbert, avocat au barreau du Val d'Oise et bâtonnière de l'ordre. Merci d'être encore avec nous pour cette émission où on a parlé de votre mandat, de votre parcours d'avocat, des réformes qui animent la profession, qui sont entrées en vigueur et d'autres qui sont en cours. Et nous allons aborder maintenant the sujet, celui de l'intelligence artificielle. En 2025, vous étiez présente pour un événement organisé par la clinique juridique et consacré à l'impact de l'IA sur la pratique du droit. En mars 2026, le barreau a également organisé des échanges entre avocats et magistrats sur l'IA, les exigences d'indépendance, du secret professionnel, de loyauté et de responsabilité. Le CNB a également publié un code ou un guide de déontologie consacré à l'IA générative. Maître Anis Vistube Guilbert, alors comment comment envisagez-vous l'arrivée de l'intelligence artificielle et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour notre profession? Est-ce que pour vous c'est d'abord une opportunité ou un danger?
Les deux. D'autres questions? Je développe un peu peut-être.
S'il vous plaît.
Les deux, en fait, il y a deux choses différentes dans l'utilisation de l'IA au quotidien. Il y a d'une part ce qu'en font les avocats, d'autre part ce qu'en font les justiciables. Et enfin, ce qu'en font les avocats et la justice en règle générale, puisque ça s'applique aussi aux magistrats et à tous ceux qui tous les acteurs du terrain. Mais sur l'utilisation par les justiciables. C'est effectivement, je crois, Libération qui titrait la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, un article comme quoi les avocats vivaient leur moment doctissimo, comme les médecins il y a quelques années, avec l'arrivée de l'IA et donc les justiciables qui, naturellement, plutôt que d'aller voir un avocat, posent leurs questions juridiques à l'IA et estiment que ce que l'IA répond est du pain béni et qu'il n'y a aucun doute à avoir sur ce qui est dit. Et effectivement, je pense que le parallèle qu'a fait Libération sur avec Doctissimo et ce qu'on a connu déjà il y a ça a commencé je pense il y a une dizaine d'années, quelque chose comme ça, sur les personnes qui ont des symptômes demandent à Google à l'époque à quoi correspondent les symptômes et qui avaient une réponse, et ben on voyait bien que très vite en fait il fallait quand même aller voir le médecin et que il y a la théorie et la pratique, et ces métiers là que ce soit l'avocat, le médecin ou autre, ce sont des métiers dans l'humain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir du principe que une situation telle qu'elle est présentée avec les éléments qui sont présentés par le justiciable, il va y avoir la bonne réponse de l'IA, puisque par définition, le justiciable, on est en matière d'IA, on parle de prompt, donc des éléments qu'on donne à l'IA pour qu'elle puisse générer une réponse, et donc l'avocat, contrairement au justiciable, lui va maîtriser ce prompt et va maîtriser, le cas échéant, la question qui va être posée pour l'orienter concrètement, pour que ça corresponde à la situation du justiciable à ce moment-là. Et c'est ça que l'avocat va apporter, comme le médecin qui apporte à son patient, parce que il ne voit pas que le symptôme, il voit le symptôme dans une situation, et c'est là où l'interprétation humaine ne peut pas être remplacée par Internet ou par l'IA. Donc ça, c'est la partie justiciable et IA avec les justiciables. Donc ça, je suis convaincue que de toute façon, très vite, les gens vont se rendre compte qu'ils vont droit dans le mur en posant une question à l'IA, en essayant de s'en sortir tout seul, alors qu'ils n'ont pas le recul et qu'ils n'ont pas forcément posé la bonne question à l'IA. Donc par définition, l'IA n'a pas donné la bonne réponse. Et après, la seconde chose, la seconde partie, c'est l'utilisation que vont en faire les confrères et les juridictions. Parce que oui, bien sûr que les avocats vont servir de l'IA. Et se servent déjà concrètement de l'IA. On a, nous sur le barreau, effectivement, un abonnement, enfin on a un partenariat avec une intelligence artificielle pour permettre à tous les avocats d'y avoir accès. Mais le but, là, c'est pareil, c'est pas de remplacer l'avocat, c'est d'avoir une canne, un soutien. C'est-à-dire que, plutôt que de chercher 3 heures, 4 heures, une jurisprudence, une décision de justice qui va correspondre à une situation pour pouvoir l'ajouter, eh ben, l'IA va permettre de faire cette recherche-là en 5 minutes. Elle est là, la nuance, en fait, concrètement. Mais l'IA ne va jamais remplacer l'avocat. Pour les raisons exactement que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que ça peut être une aide pour faciliter ou accélérer certaines recherches, mais ça ne va jamais empêcher l'avocat de réfléchir, d'avoir son recul, d'avoir son humanité, d'avoir son empathie face à son client qui va lui permettre d'appuyer, de choisir la bonne direction, de choisir la bonne défense et comment gérer ce dossier-là. Ça, l'IA ne pourra jamais le remplacer. Donc je ne suis pas trop inquiète, mais il faut effectivement en revanche énormément former les avocats en permanence sur comment bien se servir d'une intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle, il faut apprendre à prompter, ça c'est la première chose, et il faut apprendre à vérifier ce qu'elle nous dit, ça c'est la seconde chose, puisqu'on le sait, il y a ce qu'on appelle les hallucinations, ça marche dans toutes les matières, ça marche aussi dans le droit. Je me suis déjà amusée gentiment, notamment sur Gemini, ChatGPT ou autre, à demander des décisions de justice et à voir que très vite, quand on creuse un petit peu et qu'on repointe les questions, l'intelligence artificielle nous invente une décision de justice qui n'existe pas. Donc, bien entendu, l'avocat, une fois qu'il a fait une recherche sur l'intelligence artificielle, doit vérifier que la recherche correspond effectivement à une réalité. Donc, le gain de temps est quand même énorme parce qu'il n'y a pas eu toute la recherche, mais c'est pas un gain de temps de 3 jours qui passe en 5 minutes parce qu'il y a toutes les vérifications à faire et c'est comme ça qu'on va avoir un bon avocat.
Et donc, rappelez que les avocats ne peuvent pas utiliser n'importe quelle intelligence artificielle compte tenu de cette obligation à laquelle on est tenu du secret professionnel, de respecter le RGPD. Donc, rappelez que l'avocat, s'il utilise une IA, elle doit répondre à des exigences. Et qu'il existe d'ailleurs des IA dédiées aux avocats.
C'est ça. C'est pour ça qu'en fait, on a pris on a fait un partenariat au niveau du barreau pour que l'ensemble des avocats puissent en bénéficier. Après, chaque cabinet, s'il veut prendre autre chose, prend bien sûr autre chose, mais on a fait quelque chose de global pour permettre au moins à tous les avocats, puisque comme je le disais, on a un grand nombre d'avocats en individuel sur le barreau, qu'ils puissent tous accéder à une intelligence artificielle métier. C'est-à-dire que non seulement les règles par rapport au secret professionnel sont respectées, c'est-à-dire que les données que les avocats donnent ne partent pas sur la toile et ne peuvent pas être diffusées d'une façon ou d'une autre, elles restent en interne avec un contrat spécifique, avec une base de données qui elle-même, en revanche, va pouvoir être accordée, par exemple, à Légifrance pour avoir l'ensemble des décisions de justice, à différentes bases de données en fonction de ce qui est signé, pour pouvoir avoir accès à un maximum d'informations. Mais bien sûr, avant tout, le but, c'est de pouvoir protéger les informations qui nous sont transmises, puisque nous sommes soumis au secret professionnel. Et cette question se pose de la même façon et de façon aussi complexe pour les magistrats, parce que pour que les magistrats puissent utiliser l'intelligence artificielle, il faut que les données qu'ils ont entre les mains ne puissent pas basculer sur la toile et être récupérées d'une façon ou d'une autre. Donc il faut des serveurs qui soient extrêmement privilégiés, de préférence en France ou à tout le moins en Europe, et un ensemble de règles qui soient respectées. C'est pour ça que c'est toujours intéressant et qu'on en discute beaucoup au sein des ordres, pour être sûr qu'il y ait au moins un outil parfaitement fiable et inviter les confrères à passer par cet outil-là.
Alors cet outil fiable, vous l'utilisez peut-être, j'imagine vous-même dans votre quotidien d'avocate comme vos confrères, donc concrètement on l'utilise donc pour faire des recherches juridiques, des synthèses de documents, préparer une consultation, parce que l'IA elle a vocation à nous aider dans certaines recherches mais aussi à nous faire gagner du temps.
Et nous aider dans certaines recherches, c'est gagner du temps, précisément.
Rédiger oui. des actes, par exemple, une consultation, analyser un dossier. Je pense au dossier criminel très volumineux. L'IA peut aussi être utilisée par les avocats pour des synthèses, par exemple.
Alors, elle peut être utilisée pour des synthèses. Moi, j'ai tendance à m'en méfier effectivement énormément parce que, ben, concrètement, alors pour le coup, pour faire du pénal, un dossier en procédure pénale est souvent, enfin, ça dépend des dossiers, mais pas mal de dossiers qui sont extrêmement volumineux, et c'est dans ces dossiers-là qu'on va avoir tendance à vouloir avoir un résumé. Et je pense que du coup, ça a tendance à gâcher complètement le travail de l'avocat, puisque l'une des spécificités d'un avocat dans un dossier comme ça, notamment criminel, c'est justement de regarder en détail le détail du dossier, les points qui effectivement posent problème, les éléments qui sont passés à côté des enquêteurs, parce que nous sommes tous des êtres humains et que personne n'est parfait, et qu'il y a des fois des failles, des choses qui n'ont pas été vues et qui permettent de redonner un second souffle à une enquête. Et donc si l'avocat n'est pas là pour regarder vraiment tous les détails et de réfléchir concrètement à un dossier feuille par feuille, côte par côte, je pense qu'il perd quelque chose. Donc moi, c'est vrai que j'aurais du mal. Alors peut-être pour se plonger dans un dossier, avoir un premier résumé qui permette d'avoir une vision globale avant de se pencher dedans. Mais là, je pense que c'est vraiment, il faut pas penser l'outil IA comme un outil, comme une canne, mais pas comme quelque chose qui va remplacer le travail de l'avocat. Si on la pense comme ça, ça sera du mauvais travail à la fin. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut expliquer au justiciable, c'est que l'avocat va céder pour être plus efficace, pour être éventuellement plus précis, pour être éventuellement plus rapide, mais l'IA ne sera jamais là pour remplacer ou faire son travail à sa place.
Alors, selon vous, donc j'ai compris votre position, mais est-ce que l'IA finalement va pas rendre les avocats aussi plus disponibles pour leurs clients, ou au contraire, est-ce que ça va nous permettre de traiter encore davantage de dossiers? Parce que c'est une vraie question et qui va avoir un impact après sur nos honoraires d'ailleurs. Si on traite plus vite les dossiers, est-ce qu'on facturera autant? Est-ce qu'on facturera différemment, donc moins? C'est une vraie question alors que je vous pose à titre personnel, à titre de bâtonnière.
Oui, mais ma réponse, c'est forcément avec ma sensibilité personnelle vais répondre, qui n'engage pas forcément. Mais c'est moi, j'ai plutôt tendance à être IA sceptique à ce niveau-là.
D'accord.
C'est-à-dire que je pense que on va s'y mettre comme tout le monde, et on s'y est mis comme tout le monde, et ça va nous apporter effectivement des choses, mais je pense que ça nous apporte aussi son lot de difficultés, son lot, et je pense pas que ça va au final tant révolutionner que ça. C'est-à-dire que ça va juste déplacer le problème, mais je suis pas sûre que l'IA nous permette d'avoir plus de dossiers concrètement, parce que il y a toute la phase de vérification, il y a toute et il va falloir continuer quoi qu'il arrive à réfléchir sur nos dossiers. C'est pas possible autrement. Enfin, c'est notre cœur de métier de réfléchir à un dossier, et c'est ça la plus-value qu'on a et que l'IA ne pourra jamais nous prendre. Je vois très bien que l'IA va poser des difficultés. Enfin, quand on se retrouve d'un seul coup avec des conclusions parce que justement des recherches ont été faites à base d'IA et on a des conclusions de 50 pages au lieu de 10 pages parce que tout les éventualités sont prises en considération, là on est sur du contre-productif et on va perdre beaucoup plus de temps qu'en gagner, parce que des conclusions, alors tout dépend du dossier bien entendu, mais si elles doivent tenir en 10 pages, en faire 50 pages, c'est complètement contre-productif, et pour nous, et pour le justiciable, et pour le juge qui se retrouve derrière et qui va devoir prendre une décision.
Alors le Conseil National des Barreaux, donc le CNB, a adopté en mars 2026, je le rappelais, un guide sur la déontologie et l'IA générative. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la profession est suffisamment encadrée, ou est-ce qu'elle va devoir retravailler régulièrement sur l'impact de l'IA sur notre activité professionnelle d'avocat?
Alors, je pense que l'encadrement est bon et il est réel. En revanche, la formation doit être constante, parce que effectivement, on a différentes générations d'avocats concrètement. On a les avocats sortis d'école, qui sont des avocats qui ont été biberonnés à l'internet et qui, pour les dernières générations, ont déjà eu l'occasion d'utiliser l'intelligence artificielle pendant leurs études, donc qui ont ce réflexe-là de l'utiliser, mais pas forcément de la bonne façon, en intégrant les règles déontologiques. Donc là, il y a tout un travail de formation et de recalibrage d'une habitude qui va se transformer en une autre habitude pour que ça corresponde à nos règles déontologiques. Et puis après, il y a les avocats
de ma génération, de la génération suivante, où on s'est formé, alors il y avait déjà Internet, je suis pas si vieille que ça quand même, mais on s'est formé sans intelligence artificielle, avec des recherches totalement différentes. Enfin, moi, pendant mes études, on continuait à rechercher sur le papier. Enfin, c'était toutes les bases de données étaient encore, les Dalloz, LexisNexis et autres étaient encore en version papier. Et donc effectivement, toute cette génération-là, il faut apprendre le prompt, il faut apprendre les bons réflexes. Et ça, c'est une formation constante. C'est-à-dire que tous les ans, les ordres doivent refaire des formations, doivent s'adapter aux différentes problématiques qui s'ouvrent à nous au fur et à mesure et qu'on découvre, parce que c'est nouveau tout ça, aussi bien pour la justice que pour nous. Donc de toute façon, il faut qu'on s'adapte au fur et à mesure en voyant les problèmes arriver.
Merci pour vos réponses humaines. Je vous propose de marquer une dernière pause puisque notre émission touche à sa fin et j'ai encore des questions que j'appelle questions bilan à poser à Madame la bâtonnière du barreau du Val d'Oise, Maître Anise Vistup-Gilbert. Restez avec nous.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Vous écoutez l'émission Tous les droits sur IDFM Radio. Notre émission touche à sa fin. J'ai eu le plaisir d'accueillir à ce micro Maître Anise Vistup-Gilbert, avocat au barreau du Val d'Oise et bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise. J'ai encore quelques questions qui sont un peu ce que j'ai appelé des questions bilan, Madame la bâtonnière. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous rend aujourd'hui le plus fier de votre mandat?
Mon Dieu, je ne sais pas.
Mais tellement de choses, voilà.
De retrouver, enfin de vraiment travailler sur la cohésion du barreau et le fait que les avocats, même s'ils exercent en individuel, se rappellent que c'est qu'ils sont un barreau, qu'ils travaillent ensemble et qu'il y ait une vraie fraternité et confraternité qui s'alimente et qui se voilà. Je suis contente d'avoir travaillé là-dessus et je pense que ça aide vraiment les confrères au quotidien.
Mais sur ce sujet, vous avez mené beaucoup d'actions, la newsletter, vous avez mis en place des petits déjeuners où on peut vous rencontrer.
Vous savez tout.
Je sais plein de choses, hein, qui ont été très appréciées. Vous avez mis en place un moyen de communiquer, donc l'équivalent d'un WhatsApp entre confrères, c'est ça?
Oui, qui s'appelle Olvid, qui est une application effectivement de discussion instantanée, mais française et RGPD++, qui nous permet d'avoir tout un réseau en interne et qui permet aux confrères d'avoir l'ensemble, de pouvoir contacter n'importe quel confrère et discuter par matière et connaître son barreau en fonction des matières et de rajouter encore un peu plus d'entraide et de communication en interne.
Oui. Et c'est, je pense, qui fait la force de votre barreau. C'est cette cohésion que vous avez su recréer, cette communication étroite entre le bâtonnier et ses avocats.
Oui, elle avait jamais disparu. On a cette chance. Le barreau du Val d'Oise, on est, comme je le disais, le 20e plus gros barreau hors Paris, mais on a su garder une forme de taille humaine, c'est-à-dire qu'on reste quand même un barreau assez familial, mais ça s'entretient. Et c'est le rôle du bâtonnier et de tous les bâtonniers, enfin ceux qui étaient là avant moi et ceux qui seront là après moi, c'est vraiment le rôle principal du bâtonnier, c'est de se dire la force du barreau du Val d'Oise, c'est son côté barreau familial où les gens se connaissent, où les gens s'entraident, où les gens sont confraternels, et ça c'est le bâtonnier qui permet d'entretenir ça.
Et j'ai une question encore pour vous. Alors, maintenant que votre mandat touche à sa fin, est-ce que ce mandat a changé votre regard sur vos confrères?
C'est très compliqué comme question. De façon générale, pas forcément, mais de façon individuelle, énormément. C'est-à-dire que il y a une proximité qui se crée avec des confrères que je connaissais peu, puisque forcément 550 confrères, on les connaît, mais on les connaît pas intimement, on les connaît, on a des relations professionnelles et on se connaît pas forcément énormément, et donc j'ai appris à en connaître beaucoup. Et oui, j'ai été énormément touchée par les différentes histoires, par les différentes, c'est humainement extrêmement riche et passionnant, et je pense que c'est effectivement une des choses que j'ai préférées aussi, c'est ce contact humain avec mes confrères, avec les difficultés concrètes de chacun, pris individuellement, parce que je pense qu'effectivement la globalité, je l'avais en tête et ça correspondait à ce que j'avais en tête, mais l'individu, c'est ça qui reste la première richesse.
Et est-ce que vous avez eu des décisions difficiles à prendre dans le cadre de votre mandat, et comment vous avez géré ces prises de décision?
Tellement.
bien sûr, mais une fois de plus, hein, comme tous les bâtonniers, il y a parfois des décisions extrêmement complexes. Alors, j'en donnerai pas d'exemple ici, mais il y a effectivement eu quelques nuits blanches, et la force du bâtonnier, c'est d'avoir les prédécesseurs qui sont là, qui sont à l'écoute et qui vont donner un avis parce qu'eux sont passés par là, ont été bâtonniers et vont donner leur point de vue, leur idée, sans jamais me l'imposer. C'est-à-dire qu'ils me disent, voilà, moi je pense que j'aurais fait ça. Un autre qui me dit, moi je pense que j'aurais fait ça. Et chacun en disant, mais c'est ta décision, c'est toi là qui es aux commandes et ça va être à toi de choisir et donc de devoir assumer ta décision. Donc personne ne m'a jamais rien imposé, mais ils ont tous été là pour me tendre la main, pour me donner la richesse de leur expérience. Et après, on a le national aussi qui est là pour aider en cas de difficulté. Donc, on est bien entouré.
Et est-ce que cette fonction vous a changé personnellement ?
Ça sera à mon entourage de répondre.
Vous avez quand même, peut-être que j'interviewerai un jour votre entourage. Voilà. Mais vous, en tout cas, est-ce que vous avez ressenti une évolution personnelle ou est-ce que ça vous a conforté dans certains point de votre caractère, je sais pas.
Non, je pense que ça m'a appris par définition à gérer mon stress, que je suis naturellement plutôt quelqu'un d'un peu stressé, un peu angoissé, et que la pression et la charge mentale est telle que il faut apprendre à gérer ce stress et cette angoisse. Donc je pense qu'effectivement je ressors de ce bâtonnat beaucoup plus forte à ce niveau-là que je l'étais avant, par la force des choses, parce que sinon on tient pas 2 ans si on est stressé comme je l'étais quand je suis arrivée.
Alors, on n'a pas eu beaucoup de femmes bâtonnières au sein du barreau du Val d'Oise.
Je suis la 5e.
Voilà, donc ce n'est pas, c'est bien, c'est pas autant que les hommes.
Définitivement.
Est-ce que vous pensez que justement le fait que vous soyez une femme ait pu apporter des difficultés ou au contraire une certaine manière d'envisager le mandat pour vous faciliter les choses? Comment vous envisagez, vous avez vécu tout cela?
Alors, je pense que c'est effectivement une richesse parce que comme on a été moins nombreuses, on apporte une fibre qui est différente et un point de vue qui est différent. Donc ça, c'est très bien pour tout le monde. Après, je reste convaincue, mais là, c'est pareil, c'est ma conviction personnelle et c'est pas forcément une vérité, c'est une conviction. Le rapport au pouvoir est beaucoup plus compliqué pour une femme parce que le pouvoir est une chose d'homme dans nos cultures. Et donc, on s'impose de plus en plus. On est aujourd'hui beaucoup plus de femmes bâtonnières. Mais comme l'exercice du pouvoir est par définition culturellement masculin, il nous reste encore beaucoup de choses à faire et beaucoup d'évolutions à avoir pour que les femmes se sentent parfaitement légitimes et bien dans la prise de pouvoir. Et ça, effectivement, je l'ai vraiment ressenti. Le rapport au pouvoir en tant que femme et qu'on me rappelle que je suis une femme dans différentes occasions, alors que quelle importance, quoi. Et vraiment d'être confrontée à ça, pour le coup, je ne m'y attendais pas du tout. Et donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire, oui, à ce niveau-là.
Bah, merci d'avoir, en tout cas, mis des petits cailloux sur ce chemin, Maître Alice Bistube-Guilbert. Qu'est-ce que je vous souhaite pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
Toujours plus d'épanouissement, d'avoir un barreau qui s'épanouit aussi et qui... Une profession toujours la plus unie possible. Je suis convaincue que c'est le être ensemble et le vivre ensemble qui est la solution de beaucoup de choses.
Merci pour le temps que vous nous avez consacré dans votre agenda de bâtonnière qui est très très fourni et très dense. Merci Maître Anise Vistu-Guilbert du temps que vous avez passé avec nous, de votre énergie, de votre professionnalisme. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Francky pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast sera disponible sur le site de la radio idfm98.fr. Le prochain numéro de Tous les droits, c'est lundi 5 octobre. Je vous invite à adresser vos questions à l'adresse tldidfm@gmail.com. À très vite pour un nouveau numéro de Tous les droits sur IDFM Radio. Belle journée et excellente semaine.